Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce n'est pas un sujet brûlant, mais plusieurs sujets brûlants que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Ambline, bonjour à tous. Notre invité d'aujourd'hui est mon ancien complice de l'ombre d'un doute, Christophe Bourseiller. Il vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Et si c'était la vérité ?», sous-titré « Enquête sur les délires de l'histoire ». Dans ce livre sont répertoriées certaines des thèses historiques les plus curieuses, les plus audacieuses, les plus contestées aussi. Il m'a semblé, en les lisant, que tous ces délires n'étaient pas vraiment délirants. Certains le sont, d'autres
voilà.
Moins.
Voilà qui nous promet un beau débat,
n'est-ce pas?
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Lorane sur les origines, les véritables origines du tissu Vichy.
La petite robe Vichy, immortalisée par Brigitte Bardot. Pour le moment, je vous propose un petit tour d'horizon de controverses historiques.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Voici donc un livre qui, à tous les points de vue, ne pouvait me laisser indifférent. D'abord parce que j'aime beaucoup son auteur, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, je viens de vous le dire, notamment sur quelques-uns des sujets abordés dans ces pages. Christophe Bourseiller est un esprit véritablement libre, ce qui, par les temps qui courent, n'est somme toute pas si répandu. Ensuite, et peut-être surtout parce que chaque fois qu'il est question quelque part de thèses historiques dissidentes, de travaux de recherche controversés, de conclusions non admises sur les mystères de l'histoire, vous savez très bien qu'une sorte de radar s'éveille en moi pour aiguiser ma curiosité. Enfin, et ce n'est sûrement pas la moindre de mes motivations, parce que la présentation de l'ouvrage, peut-être plus d'ailleurs que son contenu, m'a un peu agacé, a priori, je le reconnais. Je jette un premier regard sur la quatrième de couverture et je lis « Et si Jésus, Christ, était gaulois ?»
Ah,
mon
thèse.
Dieu !« Et si le Titanic n'avait pas coulé du tout ?» Diable !« Et si la famille du tsar avait survécu à la révolution de 1917 ?» Et là, je ne puis que marquer un temps d'arrêt, car si j'ai bien conscience que le Titanic repose aujourd'hui au fond des mers, je dois avouer en revanche que je me pose sincèrement la question de la survie de plusieurs membres de la famille impériale de Russie. Vous savez, cette famille est réputée avoir été massacrée à la maison Ipatiev à Yekaterinbourg dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Alors, pourquoi, me suis-je demandé, mettre dans le même sac des thèses complètement farfelues et d'ailleurs très drôles avec lesquelles nous allons rire ensemble tout à l'heure? Je pense que on peut dire que Christophe Bourseiller a vraiment ratissé très large. Vous verrez qu'il y a des thèses aberrantes et puis d'autres qui sont certes surprenantes, mais non dénuées d'arguments, non dénuées d'intelligence. C'est la question, à mon avis, que pose ce fourmillant petit livre. Je cite l'introduction de Christophe Bourseiller. « Ce livre se présente comme une anthologie des affirmations les plus discutables et les plus discutées. On le verra au fil des pages, le pire y côtoie peut-être le meilleur. Contester la vision officielle, remettre en question les vérités acquises, cela revient-il forcément à sombrer dans le ridicule ? On ne glanera pas ici que des assertions extravagantes. » Eh bien, je suis bien d'accord avec cela, cher Christophe, et notamment lorsqu'il est question. Alors, je vais prendre quelques exemples, bien sûr, pour donner, pour donner l'eau à la bouche à nos auditeurs. Lorsqu'il est question de Marco Polo, on connaît l'histoire de Marco Polo, bien entendu, fils d'une famille de négociants vénitiens. C'est son père Nicolo, son oncle Matteo sont allés faire fructifier les affaires de la famille en Crimée, puis à Soldaia, sur les bords de la mer Noire. Donc, très loin, dans les plus loin comptoirs vénitiens qu'on puisse imaginer. Et en 1265, les deux frères vont se rendre jusqu'en Chine, à l'époque Marco reste à Venise avec son grand-père. Ils vont rencontrer là-bas l'empereur de Chine, alors qu'il n'est pas d'ailleurs tout à fait empereur de Chine, qui est le chef des Mongols de cette dynastie des Yuan qui à l'époque domine complètement, dirige la Chine. Il s'appelle Kublai Khan, c'est le petit-fils de Genghis Khan, bien entendu, le fondateur de cette dynastie mongole. Et Kublai Khan est suffisamment intéressé, intrigué par les deux voyageurs pour leur donner une lettre de mission, une lettre adressée au pape, donc au chef des chrétiens, pense évidemment le Mongol, lui traduit ça dans ces termes, une lettre au pape demandant l'envoi d'une centaine de sages et de docteurs pour enseigner la religion catholique aux Chinois. Et Kublai Khan en profite pour accorder aux deux frères un sauf-conduit qui va leur permettre de voyager, alors non sans difficulté, mais enfin d'arriver en tout cas à bon port. Ils sont à Venise en 1269. À l'époque, le petit Marcois grandit, si je puis dire. Il a maintenant 15 ans. Et en 1271, quand ils vont reprendre la route, eh bien, Niccolo et Matteo vont emmener, si je puis dire, Marco dans leur bagage. Et c'est évidemment le début de ce périple qui fait rêver la planète entière depuis maintenant tant de siècles. Quand je dis la planète entière, parce que tout ça a donné lieu au retour de Marco Polo. Des décennies plus tard, ça a donné lieu à l'écriture d'un livre, le fameux Devisement du monde, qui a été écrit par la plume de Rusticello de Pise, un homme qui se trouvait enfermé dans la même geôle que Marco Polo. Et ce livre, ce Devisement du monde, qu'on appelle le Livre des Merveilles, que les Italiens ont surnommé, non sans ironie, Il Milione, se trouve être le grand ouvrage d'aventure par excellence. Celui qui notamment, ne l'oublions pas, a donné à Christophe Colomb l'envie d'aller conquérir de nouveaux horizons. Vous y trouverez, lit-on dans la préface du Livre des Merveilles, de cette description du monde, vous y trouverez toutes les grandissimes merveilles et diversités de la grande et de la petite Arménie, de la Perse, de la Turquie, des Tartares et de l'Inde et de maintes autres provinces de l'Asie moyenne et d'une partie de l'Europe. Quand on marche à la rencontre du vent grec, du Levant et de la Tramontane, on a l'impression du boniment d'un vendeur de foire. En vérité, il y a là la promesse d'un parcours, d'un voyage dans l'imaginaire. Et ça, c'est toute la question. Est-ce que Marco Polo a fait œuvre de fiction et d'imagination, ou est-ce qu'au contraire, il a plus ou moins scrupuleusement raconté ce qu'il avait vu au cours des nombreuses années passées à la cour de Kublai Khan? Eh bien, il se trouve que une dame très savante, au demeurant, puisqu'elle est directrice, elle était directrice du département de sinologie de la British Library de Londres, Frances Hood, a émis de gros doutes. Son livre n'a jamais été traduit en français, entre parenthèses, c'est une des questions que je poserai ça à Christophe. On a l'impression que, d'une façon générale, les thèses un peu dangereuses sont toujours traduite avec parcimonie en France. Mais en tout cas, dans son livre « Marco Polo est-il allé jusqu'en Chine ?», elle signale que Marco Polo ne mentionne nulle part la Grande Muraille, ne mentionne nulle part la calligraphie, ni le thé, ni l'usage de baguettes, ni les femmes aux petits pieds. Vous savez, cet usage qui consistait dans les bonnes familles de Chine à bander les pieds des petites filles pour qu'ils ne grandissent jamais. Bref, si Marco Polo est allé véritablement en Chine, alors la relation qu'il en a faite se trouve singulièrement lacunaire. À moins qu'il n'y soit pas allé du tout.
Un extrait de la marche de Marco Polo de Georges Garvarentz. Au cœur de l'histoire continue dans un instant. Et Franck Ferrand, vous continuerez de nous exposer des thèses historiques dissidentes.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Des controverses historiques sont au cœur de l'histoire et Franck Ferrand, vous soulevez maintenant une nouvelle question.
Ah oui, alors j'aurais bien aimé demander à Christophe Bourseiller son avis sur l'affaire Marco Polo, mais avançons si vous le voulez, puis on reverra tout ça ensemble. Et puis il y a tellement d'autres aspects, bien entendu, tellement d'autres dossiers à évoquer. Un dossier que je connais alors vraiment bien et que nous avons traité ensemble à la télévision avec Christophe, c'est la question du tombeau de l'empereur. Vous savez que Napoléon Ier a été exilé une première fois à l'île d'Elbe, qu'il est revenu. On a célébré le bicentenaire de tout ça par une émission que nous avons faite en direct de Golfe-Juan. Il est remonté, c'est le vol de l'aigle jusqu'à Paris. Il reprend le pouvoir pour 100 jours. Il est destitué à l'issue de la terrible défaite de Waterloo le 18 juin 1815. Et là, les alliés se disent que quand même ça commence à bien faire. Et ils vont, ce sont les Anglais d'ailleurs qui prennent l'initiative et qui vont déporter littéralement Napoléon jusqu'à un îlot battu par les flots dans l'extrême fin fond de l'Atlantique Sud, qui s'appelle Sainte-Hélène, dans la ferme de Longwood qu'on prépare pour lui. Alors en attendant d'ailleurs, il va partager le quotidien des habitants. Puis il s'installe là avec une sorte de réduit de cour. Il y a toujours un grand maréchal du palais, c'est Bertrand qui est là, avec sa famille, le comte général Montolon, le général Gourgaud, il y a Lascaz qui va pas rester très longtemps, Lascaz, mais c'est lui qui aidera Napoléon à écrire en quelque sorte ses mémoires, hein, qui rédigera le célèbre mémorial de Sainte-Hélène, il est avec son fils, il y a le premier valet de chambre Marchand, bien entendu, le Mamelouk Ali, et puis le maître d'hôtel Cipriani, qui, soit dit en passant, va mourir dans des circonstances relativement étranges en 1818, semble-t-il à la suite d'un suicide, car Napoléon ne lui adressait plus la parole, suicide à l'arsenic, vous allez voir pourquoi je précise ça. Bon, Napoléon ne va pas bien du tout à Sainte-Hélène, et il va finir très très malade de l'estomac, il a des douleurs terribles, etc. Il va finir par mourir en mai 1821. Il est inhumé au fameux Val du Géranium à Sainte-Hélène, bien entendu. Et voilà, j'ai envie de dire, l'histoire est terminée, fin de l'épopée napoléonienne. Sauf que, 19 ans plus tard, la reine Victoria, dans des circonstances sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais qui sont d'ailleurs assez amusantes politiquement, va proposer au gouvernement français, à l'époque dirigé par Adolphe Thiers, le rapatriement des cendres de Napoléon. C'est-à-dire qu'on prendrait le corps de Napoléon à Sainte-Hélène et qu'on le ramènerait à Paris. Évidemment, le roi Louis-Philippe n'y voit pas d'inconvénient. Non seulement il n'y voit pas d'inconvénient, mais il pense même que c'est une bonne opération politique, que ça va dans le sens de cette espèce de réconciliation des Français qui constitue le projet de la monarchie de Juillet qu'il incarne. Donc pourquoi pas, dit-il, il envoie son propre fils, le prince de Joinville, avec un certain nombre d'officiers de marine, dont Chabot, bien entendu, l'amiral de Chabot. Ils partent tous sur la fameuse Belle Poule. Les voilà partis pour cet îlot du fin fond de l'Atlantique Sud. Lorsqu'ils arrivent sur place, un autre navire, une frégate rapide, l'Oreste, est arrivé avec visiblement des ordres un peu étranges, ordre de ne rien commenter, ordre de ne pas descendre d'instruments pour dessiner, pour prendre des mesures, ordre d'accepter tout ce que voudront les autorités anglaises, etc. Il faut vous dire qu'entre-temps, la situation politique a beaucoup évolué et que la France et l'Angleterre, qui s'entendaient encore tellement bien au moment du départ de la Belle Poule, sont maintenant à couteau tiré et qu'on est au bord d'une guerre à propos du statut de l'Égypte. Alors, toujours est-il qu'on va exhumer l'empereur, on est en 1840, hein, 19 ans plus tard, et alors là, ben là, rien ne va plus, si je puis dire, puisque il y avait, au moment de l'inhumation, il y avait 3 cercueils, maintenant il y en a 4, les décorations que portait l'empereur ne sont pas celles qu'on retrouve dans le dernier cercueil. D'ailleurs, il n'a pas du tout le même visage. Il est parfaitement bien conservé alors qu'il a été enterré dans des conditions où il était déjà en état de forte dégradation et même avancé. Il ne porte d'ailleurs même pas le même uniforme. Les bottes sont ouvertes sur les bouts, laissant dépasser les pieds. On a déplacé les vases dans lesquels se trouvaient les viscères qui, du côté du cercueil, se retrouvent entre les jambes, enfin, etc. Il est évident qu'on a tripatouillé là-dedans, qu'on a ouvert au moins le cercueil, et qu'on a même probablement changé les cercueils, puisqu'ils ne sont ni du même nombre, ni dans le même ordre. Alors, je ne vais pas revenir sur toute cette histoire que j'ai eu l'occasion de traiter déjà à ce micro, au moins 2 fois, si je ne m'abuse, que nous avons traité à la télévision, mais ce qui est certain, c'est qu'un doute pèse, évidemment, sur l'identité du corps qui se trouve dans la bière de Napoléon en 1840. Il y avait eu des procès-verbaux d'inhumation, effectués dans les règles de l'art en 1821, et au moment de l'exhumation de 1840, bien que tout ça ait lieu de nuit, sous la pluie, et que personne n'ait pu s'approcher à moins de 20 pieds de la bière, ça aussi c'est une exigence des Britanniques, c'est vrai que ça fait beaucoup de précautions tout de même, il y a eu 7 rapports, dont ceux justement de marchands, etc., racontant ce qu'ils ont vu. Quand on compare tout ça, il y a un vrai problème. Évidemment, on va néanmoins rapporter les cercueils jusqu'à Paris avec toutes les cérémonies que vous pouvez imaginer. Grande cérémonie, j'allais dire même quasiment triomphe posthume dans la cour des Invalides. On va descendre le tombeau de l'empereur, enfin pas le tombeau, mais sa bière dans le tombeau des Invalides qui sera construit par la suite. Hein. C'est l'œuvre de Visconti, cette espèce de monument extraordinaire qui aujourd'hui encore attire 1,5 million de personnes. C'est peut-être l'une des explications pour lesquelles il n'est pas très recommandé à l'heure où je vous parle d'aller dire que Napoléon ne se trouve pas dans le tombeau des Invalides, parce que c'est une contre-publicité effrayante pour les Invalides, même si par ailleurs, et on ne le dira jamais assez, et le monument par lui-même et le fabuleux musée de l'armée méritent non seulement tous les détours, mais tous les voyages. Toujours est-il que la question se pose et que certains, et c'est le cas d'un pseudo Georges Rétif de la Bretonne, car c'est évidemment un pseudonyme, Rétif de la Bretonne, en 1969, au moment du bicentenaire de la naissance de Napoléon, a émis l'hypothèse que Napoléon n'était pas aux Invalides, et lui, il va plus loin. Il dit Napoléon, il est à Westminster. C'est Georges IV qui, en fait, l'avait fait exhumer du Val du Géranium, parce qu'il collectionnait les momies et parce qu'il avait pour Napoléon une sorte d'admiration morbide.
Merci d'avoir choisi Europe 1, vous écoutez au cœur de l'histoire et nous attendons vos messages, vos questions. N'hésitez pas, chers auditeurs d'ailleurs, à commenter cette thèse historique controversée cet après-midi sur la page Facebook de l'émission par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour continuer d'enquêter sur quelques délires historiques et théories intrigantes.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Des thèses historiques curieuses et contestées ont attiré votre attention aujourd'hui, Franck Ferrand, et vous vous penchez maintenant sur un nouveau cas.
Et oui, c'est surtout la tension de Christophe Bourseiller qu'elles ont attiré. Oui. Il en a fait un livre qui s'appelle « Et si c'était la vérité » à la librairie Vuibert, je vais dire aux éditions Vuibert si vous voulez. Alors, je reprends, et ce sera le dernier, je vous promets, après on va entrer un peu dans le débat de tout ça, la question de Lénine. Est-ce que Lénine était véritablement un agent allemand au moment où il entre sur le territoire russe et qu'il va faire dégénérer, si je puis dire, la révolution de février-mars 1917? Je vous rappelle en deux mots, là encore, on a tendance parfois à l'oublier. Il y a eu deux révolutions en Russie, en quelque sorte. Il y a la crise politique menée par la Douma, ou en tout cas par une minorité très agissante de la Douma au début de l'année 1917, c'est-à-dire au lendemain de la mort de Raspoutine. Il y a une déstabilisation complète du gouvernement et d'autant plus que le tsar se trouve à la Stavka, c'est-à-dire il est parti depuis septembre 1915 au grand état-major très loin de Petrograd. Et il y a évidemment une ébullition politique qui va aboutir dans des circonstances d'ailleurs extrêmement absurde et qui mériterait en soi un débat historique, qui va aboutir à l'abdication de Nicolas II. On ne lui en demandait pas tant, si j'ose dire. Mais bon, un certain nombre de hautes personnalités, Rodzianki, comment s'appelle-t-il, Rouski, etc., tout le monde s'y est mis et l'a convaincu qu'il fallait abdiquer. Donc le tsar abdique. Il abdique en faveur de son frère, qui ne régnera qu'une journée. Donc en fait, le frère ne veut pas de la tâche, évidemment, on peut le comprendre. Ça, c'est le début d'une république russe. C'est le début de la période dite menchévique, avec la modération d'un gouvernement qui veut, qui d'ailleurs est un peu surpris lui-même, parce qu'une partie de ceux qui voulaient la destitution de Nicolas II ne voulait pas forcément la fin de l'Empire en Russie. Toujours est-il que ce gouvernement va vite être débordé par une ultra-minorité, alors cette fois de gens qui sont revenus en Russie, qu'on appelle les bolcheviks, et qui eux vont faire un coup d'état militaire en octobre 1917. Ça, c'est la grande révolution d'octobre. Et là, c'est le début de tout ce que vous savez et des 70 années de communisme. Mais la grande question, c'est de savoir jusqu'où Lénine a profité de la complicité de l'Allemagne. Parce que Lénine, à l'époque, il était en exil. Il était à Zurich. Il était le chef de la faction bolchevique du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Autant vous dire que c'était pas une puissance tellement considérable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà que grâce à la diplomatie allemande, il va rentrer en Russie dans ce fameux wagon plombé. Vous allez me dire, mais que viennent faire les Allemands là-dedans? Mais on est en plein dans la Première Guerre mondiale. La principale épine dans le pied du haut état-major allemand, c'est évidemment ce front de l'Est qui mobilise des unités en nombre considérable. Il suffirait de signer avec la Russie une paix séparée, ça va être le cas à Brest-Litovsk, pour que, évidemment, tout ce matériel et toutes ces unités disponibles puissent être transférées sur le front de l'Ouest, où se joue véritablement le sort de la guerre. Donc pour les Allemands, c'est vital cette histoire. Et l'on peut imaginer, et l'on a dit, n'est-ce pas, que des négociations s'étaient engagées entre l'ambassadeur d'Allemagne en Suisse et le dirigeant socialiste suisse Fritz Platen. Un accord aurait été trouvé. Lénine, sa femme et 30 autres révolutionnaires vont donc pouvoir passer à travers l'Allemagne sans être contrôlés, entrer tranquillement, j'allais dire comme dans du beurre en Russie, et aller mener là-bas eh bien, la révolution que vous connaissez et qui aboutira d'ailleurs à la fameuse paix séparée. Entre parenthèses, si c'était les plans de la Wilhelmstrasse, si c'était les plans de la diplomatie allemande, ils ont réussi au-delà de toute espérance, parce qu'il y aura un effet boomerang, bien entendu, comme toujours dans ces cas-là. Et finalement, la révolution, elle s'exportera aussi en Allemagne, et l'on verra, même si cette révolution ne durera pas en Allemagne, mais en tout cas, elle sera suffisante pour faire tomber l'empereur Guillaume II et la dynastie des Hohenzollern. Donc, le 27 mars de cette année 1917, Lénine et toute la petite bande dont je vous parlais va quitter l'hôtel de Seringerhof et va se rendre à la gare de Zurich. Une navette les attend là, direction la frontière allemande. Là, il y a un train allemand, 4 wagons réservés. Lénine et sa femme occupent le premier. Ses camarades, c'est le cas de le dire, se partagent les 3 autres voitures. Les portières ont été scellées. Des officiers allemands gardent l'entrée. Un trait à la craie sépare le territoire allemand du territoire russe. Personne n'a le droit de pénétrer en territoire russe. Le convoi doit donc rester secret. C'est pour ça qu'on parle du fameux wagon plombé, même s'il n'a jamais été plombé au sens propre du terme, évidemment. Toujours est-il que Lénine et les siens sont à Pétrograd le 3 avril 1917 et qu'évidemment, ça va avoir des conséquences considérables. En juillet 1917, c'est le gouvernement menchevique lui-même qui va accuser Lénine d'avoir été un agent à la solde des Allemands. On dévoile alors des documents prouvant ou tendant à prouver que Lénine aurait été en quelque sorte directement stipendié par les Allemands. Qu'en pense mon invité ? Oh, je brûle de lui poser la question. Bonjour Christophe Bourseiller.
Bonjour Franck.
3 sujets issus d'un très grand nombre. Hein. Je ne sais pas combien il y en a en tout.
41 thèses.
41 thèses. Alors on va voir, dans ces thèses, il y a celles qui sont des débats historiques qu'on mettra assez vite de côté, celles qui sont un peu étonnantes mais crédibles, et puis celles qui totalement folles.
Oui, oui.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, la façon dont on le raconte pour se faire valoir. L'important dans la bataille, c'est l'histoire, qu'on découpe ou qu'on détaille selon l'auditoire. Face au sarrasin d'Espagne, en voyant son olifant, les soldats de Charlemagne disaient à Roland. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est notoire, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire.
Yves Duteil sur Europe 1, on écoutait « Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte », ces historiens qui contestent les versions officielles. Vous recevez cet après-midi le journaliste et historien Christophe Bourseiller, enseignant à Sciences Po Lille et auteur du livre « Et si c'était la vérité ? Enquête sur les délires de l'histoire » paru à la librairie Vuber.
Ah oui, les délires, délire vous-même Christophe Bourseiller.
Oui. C'est moi le délirant.
Alors, revenons sur les 3 sujets déjà peut-être simplement soulevés là et que vous traitez bien sûr dans le livre.
Bien sûr.
Marco Polo, est-ce que cette Francis Wood, cette sinologue britannique, est complètement folle de dire qu'il n'a jamais mis les pieds en Chine.
Bah elle est considérée comme folle dès lors qu'elle ose poser la question et dire est-ce que finalement Marco Polo aurait pu inventer, est-ce que par hasard Marco Polo s'est contenté de recopier le guide bleu, elle-même est l'auteur d'un guide bleu sur la Chine, Frances Wood, est-ce que Marco Polo a fait le tour du monde dans sa chambre, ou en tout cas a visité la Chine dans sa chambre. Elle est considérée comme folle.
Oui, elle dit que Marco Polo aurait été effectivement sur la mer Noire, peut-être même encore un peu plus loin, qu'il a croisé énormément de marchands, notamment persans, qui venaient de Chine, et que, à force d'entendre pendant des années leurs récits, il en aurait établi plus tard une compilation. Voilà ce qu'elle dit. Ce qui expliquerait pourquoi il ne parle pas des grandes inventions chinoises, les baguettes, la calligraphie et tout ça.
Bon, c'est une thèse possible et envisageable.
Oui, mais alors, l'université ne veut pas en entendre parler. Hein. Notamment en France, moi j'ai fait plusieurs émissions. Il y a longtemps que ça n'a pas été le cas d'ailleurs, mais j'ai fait plusieurs émissions sur ce sujet, et à chaque fois, les invités que j'avais me disaient mais ça ne veut absolument rien dire.
Absolument, mais il y a une espèce de réaction outragée. Dès lors qu'on voit surgir un historien dissident. Et c'est tout le projet de mon livre. J'ai essayé d'établir toutes les thèses dissidentes. Certaines sont folles, d'autres le sont moins. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Dans le cas, effectivement.
Vous aimez bien les dissidents, hein, d'une façon générale.
Vous savez bien que j'aime la dissidence, j'aime les minoritaires. Et je les trouve intéressants. Et je me dis que même, j'irai même plus loin, j'ai l'impression parfois que de l'erreur peut naître la vérité. Voilà. Alors, Frances Wood s'est-elle trompée? Ça, le débat reste ouvert, si vous voulez. Frances Wood, sur quoi s'appuie-t-elle? D'abord, elle marche sur les traces d'un grand historien, un sinologue reconnu qui s'appelle Paul Pelliot, qui est un historien français, un monsieur énorme dans l'histoire de la sinophilie, et qui lui-même avait douté de la véracité du récit de Marco Polo. Maintenant, Le problème, c'est que Frances Wood ne s'appuie que sur des impressions. Elle dit, mais c'est bizarre, moi, si j'étais allé en Chine, j'aurais parlé de la Grande Muraille.
Bah, moi, si j'étais allé... pas le problème, et c'est ce que lui oppose évidemment toujours les historiens dits sérieux, c'est que, évidemment, ça ne s'appuie pas sur des éléments tangibles.
Tout est là.
C'est une thèse, ou on devrait même dans ce cas-là parler d'hypothèse, qui paraît très cohérente et à mon avis en plus relativement convaincante, mais qui n'apporte pas d'éléments de preuve. Et c'est ça le problème, c'est que certes Marco Polo ne parle pas de la Grande Muraille, certes il oublie de parler du thé, etc.
Du thé, des baguettes.
Mais on a envie de dire, et alors, ce ne sont pas devant un jury d'assises, en quelque sorte, ça ne suffirait peut-être pas à le faire condamner.
Si je fais moi un récit de voyage aux États-Unis, peut-être oublierai-je de parler des hamburgers. Ouais. À ce moment-là, on dira il a menti, il n'a jamais mis... Ça serait dommage. On dira il a menti, il n'est pas allé aux États-Unis puisqu'il n'a pas été dégusté un hamburger dans un fast-food.
Après tout.
Peut-être pourrait-on dire ça, mais alors, c'est vrai que ça reste ambigu.
Évidemment, la personnalité de ceux qui émettent ce genre de thèse joue un rôle essentiel. Et bien souvent, c'est un peu le fou du village, il faut quand même le dire. C'est pas le cas de Frances Wood, du reste, mais c'est bien souvent le cas. Et c'est le cas, évidemment, de ce Georges Rétif de la Bretonne, qui avait publié en 1969 cet ouvrage intitulé « Anglais, rendez-nous Napoléon ».
Rien que ça, c'est évidemment...
On a connu des titres un peu plus sobres, il faut bien le dire.
C'est évident.
Mais alors, est-ce que, et j'aimerais vous l'entendre dire, est-ce que, parce que c'est le fou du village, il se trompe forcément?
Ah mais non. Justement, tout est là, et c'est pour ça que mon livre s'appelle « Et si c'était la vérité ?» C'est-à-dire qu'en réalité, je le dis à plusieurs reprises, parce que j'ai ici 41 thèses historiques, et bien parfois le débat reste ouvert. Et dans le cas de Napoléon, il y a un monsieur qui s'appelle Bruno Roy-Henri, qui a marché sur les traces donc de Rétif de la Bretonne.
Activement en ce moment même.
Qui travaille là-dessus en ce moment même, enfin sur d'autres sujets, et Bruno Roy-Henri, dans son livre, produit un document qu'il a trouvé dans les archives de Rétif de la Bretonne, qui est un témoignage de Ian Fleming, l'auteur de James Bond, qui dit que chaque fois qu'il allait avec sa grand-mère à l'abbaye de Westminster, sa grand-mère lui disait en ce moment, tu sais mon chéri, tu marches sur Napoléon.
Or, les Fleming descendaient d'un des gardes de...
Absolument, il y avait un Fleming qui gardait Napoléon, et donc c'est un secret de famille, et il semblerait que la famille ait été témoin du transfert des cendres ou du corps de Napoléon dans l'abbaye de Westminster pour que finalement les Anglais puissent mieux le piétiner.
Là, on est bien dans le cadre, enfin on est quasiment en tout cas dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un débat historique. Même chose sur Lénine, hein, d'ailleurs.
C'est vrai.
Lénine, c'est un débat historique.
Parce que c'est une question après de curseur.
Voilà.
C'est-à-dire, à l'évidence, Lénine a bénéficié de l'aide des Allemands.
Voilà.
À l'évidence. Cela fait-il de lui un agent secret allemand?
Voilà.
Non.
C'est
à mon avis,
excessif.
Non,
oui,
c'est excessif. En revanche, c'est exactement comme le débat sur Molière, vous connaissez bien Franck, l'un de mes chapitres, c'est sur la thèse « Molière n'a rien écrit du tout ». À l'évidence, Molière est l'auteur de ses livres.
De commission.
Il a fait les listes de commission, ça c'est sûr. Mais à l'évidence, Molière est l'auteur de ses livres. Mais peut-être a-t-il fait appel à un certain nombre de co-auteurs ou de nègres, comme on dit, dans l'édition, dont Corneille. Et l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a fait appel à un moment donné à quelques ateliers d'écriture pour aller plus vite, puisque c'est fondamentalement un homme de théâtre, qu'il faut lui retirer la paternité de ses livres.
Moi, je défends toujours cette idée selon laquelle Molière est bien à l'origine des schémas et des canevas, des pièces,
et
je pense que pour certaines des grandes pièces, Corneille, et peut-être même les deux Corneille, en tout cas Pierre Corneille, a servi de versificateur. Mais quelqu'un m'a dit récemment à l'issue d'une conférence, c'était d'ailleurs très intéressant, il m'a dit, vous savez, si au lieu de dire Molière n'a pas écrit ses pièces, vous disiez Corneille a collaboré avec Molière, vous emporteriez l'adhésion d'un beaucoup plus grand nombre de...
Ce serait formidable comme idée. Mais regardez, Franck, vous êtes-vous à l'initiative de tout un débat historique
sur
Alésia, hein, c'est la bataille d'Alésia. Alors moi,
qui n'est pas dans le livre.
Non, parce que moi je considère, mais non, parce que je considère que c'est un débat d'historien et que je ne vais pas me mêler des débats d'historien. En revanche, moi, j'avance une thèse historique dissidente selon laquelle Vercingétorix n'a pas existé du tout. Alors on peut sourire évidemment d'une telle affirmation, mais quand on décortique le nom Vercingétorix, on voit que ça veut dire très grand roi guerrier. De sorte que la question qui se pose, c'est est-ce que Vercingétorix, ça désigne un monsieur comme vous et moi, ou est-ce que ça désigne une fonction? Auquel cas, il peut y avoir plusieurs Vercingétorix.
Il y a un personnage dans l'histoire de France qui crie cristallise les énigmes et les mystères à un degré, alors sans aucune comparaison avec quiconque d'autre, c'est bien entendu Jeanne d'Arc.
Ah oui.
Et là, on peut établir cette fameuse gradation. C'est-à-dire qu'on peut se demander très prudemment si Jeanne d'Arc aurait pu être conseillée ou orientée, ce que nous avons fait d'ailleurs à la télévision ensemble. On peut se demander déjà moins prudemment si elle n'était pas carrément une princesse de sang royal. Voilà. Et puis on peut se demander sans aucune forme de prudence si elle n'était pas carrément un homme.
Un homme, et si elle avait survécu au bûcher après, ouais, bien ouais, évidemment. Ouais. Mais dans le cas de Jeanne d'Arc, Franck, là vous touchez du doigt quelque chose de très important. Alors mon livre s'appelle Enquête sur les délires de l'histoire. Mais dans le cas de Jeanne d'Arc, c'est l'histoire officielle qui délire. Parce que qu'est-ce que nous avons appris à l'école, vous et moi? Nous avons appris que Jeanne d'Arc était une bergère pucelle illettrée qui entendait des voix. Écoutez, qui peut croire une histoire pareille? Qui peut croire qu'une bergère illettrée va tout à coup dire « Ah, j'entends des voix, je vais monter sur un cheval alors que je ne sais pas monter à cheval et je vais entraîner des centaines de milliers de personnes derrière moi ». Avouez que ça paraît un peu surprenant et c'est ce que nous avons appris.
Eh bien, je sens que nous allons encore avoir un petit courrier sympathique à dépouiller la semaine prochaine.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Une autre lecture de l'histoire. Des thèses dissidentes sont au cœur de l'histoire cet après-midi. Votre invité Franck Ferrand, le journaliste et historien Christophe Bourseiller, auteur du livre « Et si c'était la vérité, enquête sur les délires de l'histoire » paru à la librairie Vuibert.
Avec un nombre considérable de réactions qui arrivent via Facebook, via Twitter, etc. Tout positif, je précise.
Tant
Christophe
mieux.
Bourseiller. Alors c'est Patrick qui nous dit « Des thèses délirantes, mais Pasteur, Darwin, Einstein et compagnie ont bien été accusés de délire.
»
Est-ce que
vrai.
Toutes les thèses nouvelles sont
c'est
forcément
ça.
Stupides? Non.
Bien sûr, on a traité Freud de charlatan, par exemple, lorsqu'il a lancé l'idée de la psychanalyse.
Exactement. Alors
bien
bon,
sûr.
Je peux pas citer
tous les
messages, mais il y en a un qui dit, par exemple, c'est Brigitte qui nous dit « Je ne sais si votre invité évoque la mort de Rodolphe de Habsbourg, donc l'affaire de Meyerling, bien entendu, suicide ou assassinat, de même d'ailleurs que celle de Louis II de Bavière. » Alors, précisons encore une fois que nous ne parlons pas dans ce livre, que vous ne parlez pas, en l'occurrence, de... Voilà, de mystère. Et puis surtout, en soi de mystère historique.
Non, non.
Ce sont les dissidents, ce sont les thèses non acceptées dont vous avez fait, en quelque sorte, l'inventaire.
Écoutez, Franck, j'étais le premier à ma grande surprise, parce qu'il est rare de se retrouver dans cette position-là. J'ai cherché désespérément des ouvrages qui m'avaient précédé. Et en fait, c'est un livre sur, vraiment, c'est une anthologie des historiens fous ou réputés-tels.
Réputés
comme
tels.
Voilà, parce qu'évidemment, ils ne sont pas...
Oui.
Certains sont peut-être un peu déséquilibrés, d'autres le sont beaucoup moins, comme vous l'avez démontré, bien sûr.
Je crois que vous allez dire comme vous-même, mais vous c'est un peu ça.
Alors,
certains disent que les Juifs, par exemple, viennent de l'espace.
Oui, ça,
c'est des extraterrestres.
Particulièrement délirante et antisémite, évidemment.
Incroyable.
Incroyable. Mais si vous voulez, cela s'explique par le fait que j'ai fait une gradation historique et que ça commence par la thèse selon laquelle Dieu serait un extraterrestre, ensuite que les Anglais seraient les descendants des Hébreux, et ensuite que les Juifs seraient eux-mêmes des extraterrestres. Alors, c'est une thèse complètement folle qui a été promue par un monsieur. Après, j'étudie, évidemment, son pédigré, qui s'appelle Marc de Meulner, qui se faisait appeler Marc Dem, qui était un journaliste d'extrême droite et qui a commis, en 1974, chez un éditeur tout à fait respectable, puisque c'est Albin Michel,
incroyable.
Un livre qui s'appelle « Les Juifs de l'espace » et qui vous explique par A plus B que l'antisémitisme s'explique parce que les peuples du monde ont l'impression que les Juifs sont des étrangers, et c'est normal, puisque c'est des aliens. Voilà, donc c'est évidemment une thèse particulièrement délirante et folle, mais je l'ai fait figurer dans mon livre.
Là,
parce
on est aux extrêmes limites. Là,
on est à l'extrême limite, mais j'ai tenu justement à ce qu'il y ait toutes les thèses dissidentes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui les colportent. Et que finalement,
oui, moins,
j'ai essayé avec ce livre de faire œuvre un peu de pédagogue en disant voilà la thèse qui est colportée, vous en avez peut-être entendu parler, et j'essaie de rétablir la vérité.
Alors,
bien
autre,
sûr.
Autre thèse qui n'est pas à piquer des vers quand même, qui figure carrément en quatrième de couverture, Jésus-Christ aurait été gaulois,
oui, alors,
en vérité.
Voilà, encore une fois, une thèse assez étonnante qui a été lancée après la guerre, dans les années 40-50, par un monsieur un peu oublié qui s'appelait Fursy Georges Tiberghien, qui a travaillé sur ce sujet-là, et qui s'appuie simplement sur une certaine proximité sémantique. C'est-à-dire qu'on dit, vous savez que Jésus est né en Galilée, on dit Jésus était le Galiléen. Et alors pour ce monsieur, Galiléen gaulois,
Galiléus,
en réalité, il y aurait eu en quelque sorte une vague d'émigration gauloise dans la période correspondant à la naissance de Jésus, et Jésus aurait fait partie d'une sorte de communauté immigrée gauloise en Palestine, et c'est ce qui expliquerait le fait qu'il serait gaulois. Et alors il ajoute que d'ailleurs on le sait parce que Jésus était blond. Alors ça, je ne sais pas où il est allé pêcher, que je n'ai pas vu de photo personnellement, mais en tout cas, évidemment, c'est une thèse évidemment fantaisiste, mais qui est intéressante à soupeser. Il y en a beaucoup sur Jésus.
Alors oui, bien sûr, sur Jésus. Et sur les Gaulois aussi. Donc ce que vous disiez à l'instant, Vercingétorix n'aurait pas existé du tout.
Alors, cette thèse-là, on peut en sourire. C'est une dame qui s'appelle Suzanne Citron qui l'a lancée. D'abord, elle fait remarquer que le terme de Gaule lui-même fait problème, parce qu'on ne sait pas très bien comment fixer les frontières de la Gaule. Ensuite, elle fait remarquer que le personnage historique de Vercingétorix est apparu à la fin du 19e siècle, dans un contexte, on pourrait dire, de vague républicaine, où il s'agissait un peu d'opposer un héros plébéien traditionnel à Clovis, figure plus chrétienne, en quelque sorte. C'était un peu la lutte des laïcs contre les chrétiens, et elle dit...
C'est tout un travail d'historiographie, en l'occurrence.
Tout à fait, un peu orienté, c'est une militante elle-même. Et elle dit que, effectivement, Vercingétorix, c'est un nom commun, qui veut dire le très grand roi guerrier, et que donc rien n'indique que Vercingétorix ait existé. Mais cela dit, vous savez que les Romains avaient l'habitude de rendre hommage à leurs adversaires vaincus, c'était comme ça qu'ils intégraient les peuples vaincus à l'Empire, en faisant presser des pièces de monnaie. Et il existe des pièces de monnaie à l'effigie d'une sorte de boustachu, peut-être qu'on imagine à cheveux longs, qui est donc Vercingétorix. Donc il semblerait qu'il y ait un visage et que Vercingétorix donc ait existé.
Alors dites-nous un mot, on ne peut pas tout évoquer, mais la chronologie de Scaliger, ça c'est quand même tout à fait extraordinaire.
Ça c'est incroyable, ça c'est très compliqué, il faut l'expliquer. C'est un courant qui s'appelle le récentisme, qui a été lancé par un mathématicien russe. D'ailleurs il a parmi ses disciples quand même Garry Kasparov, qui est un joueur d'échecs, homme politique russe, et qui affirme qu'il y a eu une sorte d'escroquerie à l'histoire, c'est-à-dire qu'on nous ment sur toutes les dates. C'est-à-dire qu'en gros, toute l'humanité est plus jeune de 1000 ans. Voilà, et donc en réalité, quand on dit par exemple 1515, en réalité c'est jour 515. Il y a eu une sorte de faute de frappe dans les récits historiques, et donc en fait il faut tout déplacer, et en fait tout s'explique, toute l'histoire s'explique par un astéroïde qui aurait percuté la Terre, donc à peu près à la hauteur de l'an 1000, provoquant un nuage qui aurait obscurci le ciel, et à ce moment-là ça aurait en quelque sorte arrêté la civilisation, et ça aurait détruit l'Empire romain, qui aurait donc été détruit par un astéroïde. Mais l'Empire romain se serait maintenu clandestinement, donc c'est cette thèse récentiste, sous la forme de la Sainte Église romaine. Donc selon les tenants de cette thèse, qui est très fantaisiste...
On est toujours des Romains.
Nous sommes des Romains, enfin tous les catholiques sont Romains. Et donc c'est l'Empire romain qui continue clandestinement. Vous voyez l'idée?
Alors justement,
du vrai et du faux.
Il faut venir sur tout ce qu'on appelle le conspirationnisme et d'autre part le complotisme. Expliquez-nous ça et j'en dirais moi-même.
Si vous voulez, dans mon livre, je m'interroge sur qui sont ces historiens dissidents. Donc il y a des gens en délicatesse avec l'académie, des chercheurs indépendants. Il y a des gens qui font ça au nom de raisons religieuses, qui veulent justifier de leur impératif religieux par des justifications. Il y a des rumeurs. Et puis il y a des gens qui sont des tenants des théories du complot. Alors simplement, très rapidement, il ne faut pas confondre les théories du complot et les rumeurs. C'est-à-dire que vous avez toujours eu des rumeurs. Il y a toujours eu des gens qui disaient, t'es au courant,
il paraît. Légende urbaine, comme
on
dit maintenant.
Paraît que Jeanne d'Arc est un homme. T'es au courant? Je te garantis que c'est un homme, Jeanne d'Arc.
Ça alimente les conversations de fin de soirée.
Ça alimente les conversations. Et à partir de 1789, et avec l'avènement de la démocratie, là, vous avez pour la première fois de véritables systèmes complets, des gens qui vous disent, cette démocratie, en réalité, c'est du pipeau. On croit que nous sommes gouvernés par ceux que nous avons élus, mais en réalité, il y a des gens dans l'ombre qui tirent les ficelles. Et donc, le premier à lancer cette thèse, c'est l'abbé Baruel, dans un livre qui s'appelle Les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, où il explique tout simplement que les pauvres malheureux qui ont pris la Bastille en 1789 étaient des pantins qui étaient contrôlés par les sociétés secrètes, notamment la franc-maçonnerie. Donc voilà, c'est la thèse de l'abbé Baruel. Et là, il lance véritablement ce style de sous-culturel, pourrait-on dire, qui est celui des théories du complot, dont je me fais évidemment l'écho dans le livre, mais ce n'est pas un livre sur les théories du complot,
Non, c'est un livre sur toutes les théories un peu étranges. Et vous tordez le cou au passage un certain nombre de légendes et de rumeurs, comme celle qui dit par exemple que Victor Hugo se serait converti à l'islam.
Ah oui, alors ça ne repose absolument sur rien. Alors c'est extraordinaire parce que les tenants de cette affirmation, qui sont certains sites islamistes, s'appuient...
Ils disent Victor Hugo était devenu musulman à la fin de sa vie.
Il s'appelait Abou Bakr Hugo. Et alors il s'appuie sur un livre, alors je ne sais plus le nom, là, le nom m'échappe, mais bref, sur une biographie de Victor Hugo qui était sortie dans les années 50. Biographie que j'ai retrouvée. Et j'ai cherché en vain la moindre référence à Victor Hugo musulman puisqu'il n'y en a pas. Par contre, j'ai travaillé sur le parcours, on pourrait dire philosophique et spirituel de Victor Hugo, qui est allé vers la fin de sa vie vers une forme de déisme où il considérait finalement que toutes les formes religieuses étaient de même niveau. Et c'est vrai qu'il a essayé de s'élever vers la spiritualité. Enfin, de là à faire de lui un musulman pratiquant, tourné vers la Mecque, évidemment, il y avait un pas.
Et puis on parle de choses qui vous intéressent d'ailleurs beaucoup. On parle de choses très récentes et très musicales, puisque vous évoquez la thèse selon laquelle le rock'n'roll
oui.
aurait été conçu en laboratoire, oui, selon laquelle Paul McCartney serait mort en 1966.
Ah oui, formidable. Oui, c'est extraordinaire.
Et même Elvis Presley qui serait pas mort.
Voilà, Elvis Presley n'est pas mort, Paul McCartney est mort en 66. Mais si Paul McCartney est mort en 1966, ça veut dire que c'est un sosie qui a fait l'essentiel de son œuvre. Vous êtes d'accord? Or, le sosie avait un talent fou.
Oui.
Il a un talent fou parce que
c'est dommage qu'on connaisse pas son nom.
C'est tout à fait parce que avant 66, McCartney n'avait pas encore composé les grands titres des Beatles. C'est à partir de 66 que vraiment ça a été extraordinaire. Donc d'ailleurs Paul McCartney lui-même avait commenté ça en disant: j'apprends que je suis mort, pourquoi suis-je toujours le dernier à être tenu au courant?
Paul McCartney a été informé de cette théorie,
bien
évidemment
sûr,
et pour cause,
bien sûr.
Puisque,
il en a beaucoup ri en disant bah écoutez, fallait me prévenir, je ne savais pas que j'étais mort, vous comprenez. Donc,
et vous aurez compris que Christophe Boursier s'amuse comme d'habitude beaucoup et nous amuse dans cet ouvrage qui s'intitule Et si c'était la vérité, sous-titré Enquête sur les délires de l'histoire. Alors il y a les délires délirants et puis il y a les délires raisonnables, et c'est évidemment, ce sont ceux qui nous intéressent.
Absolument.
Ici et que nous continuerons d'essayer d'éclairer avec vous aussi. Bien
avec
entendu,
plaisir.
Christophe. Merci beaucoup. Christophe Boursier, Et si c'était la vérité, c'est à la librairie Vuibert.
Vous restez avec nous sur Europe 1 au cœur de l'histoire continue et vous répondrez à la question de Laurane sur la véritable origine du tissu Vichy.
Europe 1 au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question de Laurane aujourd'hui. Voici son message sur la page Facebook de l'émission. En tant que couturière à temps perdu et grande fan de la mode des années 50, je souhaiterais connaître les origines du tissu Vichy.
Alors c'est ce tissu à carreaux, hein, bien entendu, toile de coton à carreaux, rouge, bleu, rose, jaune, orangé, il y en a toutes les couleurs, bien entendu. Les fils sont teints avant tissage, c'est pas de l'imprimer, bien entendu, avec des tailles, des motifs variables, bien entendu. Il y avait un tissu traditionnel à carreaux aux Pays-Bas il y a déjà vraiment bien longtemps. En Angleterre, on appelle ça le gingham, du malais gengang, qui veut dire la ligne, parce qu'au départ, quand le tissu est importé en Europe au XVIIe siècle, les motifs principaux sont des lignes et non pas des carreaux. Bref, le tissu Vichy, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Eh bien parce que on s'est mis à produire de ce tissu à carreaux en France, dans l'Allier, au XIXe siècle, en montagne bourbonnaise. L'industrie textile à l'époque est en plein essor. Vous savez, c'est sous le Second Empire que tout ça va prendre une dimension incroyable. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, à la cour et dans la bonne société, on porte ces espèces de robes avec, il faut des mètres et des mètres de tissu pour faire la moindre robe, parce que ça alimente, bien entendu, ça fait marcher cette industrie naissante qui est en train de conquérir peu à peu le monde à mesure que l'empire colonial va se développer. Alors l'appellation Vichy elle-même, elle date précisément du Second Empire. Il faut savoir qu'en 1863, l'empereur Napoléon III se rend à Cusset, qui est une commune limitrophe de Vichy, et parmi les différentes visites qu'il fait lors de ce voyage officiel, il faut dire que Napoléon III a passé sa vie à visiter des usines, il faut le savoir. Mais pourquoi? C'était le début, c'était l'industrialisation naissante, donc évidemment il fallait encourager tout ça. Et il visite donc la filature des Grivas, qui est très célèbre à l'époque pour sa production de textiles à carreaux. On est en 1863, encore une fois. Et il y a bien entendu, qui dit l'empereur, dit l'impératrice, Eugénie, avec ses dames, avec toutes ces dames de la cour, etc. Et il semblerait qu'elles aient fait leurs emplettes, toutes ces dames. Elles ont donc rapporté à Paris des toilettes à damier, qu'on a appelé, puisqu'on venait de Vichy, on a appelé ça Vichy. Et c'est l'origine de l'appellation. Alors, il se trouve que pendant très longtemps, on n'a plus porté du tout ce tissu. C'est vraiment tombé en désuétude quand même au début du XXe siècle. Et puis, miracle! Et ça c'est la magie du star system. C'est qu'il y a, vous le savez, cette icône de la mode, Brigitte Bardot, qui va d'un seul coup se parer de Vichy. Elle fait la couverture de Elle en 53 dans une robe à carreaux rose et blanc. On parle que de ça. Il faut vous dire que déjà dans le film de Jean Boyer, Trou Normand, où elle donnait la réplique à Bourville, elle avait ce genre de tenue. Et puis alors en 59, il y a ce mariage secret avec Jacques Charrier, et
Que porte-t-elle? Une robe Vichy du couturier Jacques Esterel. Alors là, c'est fait. Désormais, non seulement le tissu Vichy n'est plus du tout ringard, mais il devient incroyablement à la mode. On pourrait presque dire qu'il résume les années 50 et les années 60. D'ailleurs, il y a des petits ouvrages consacrés aux années 60 dont le fond de couverture est couleur Vichy.